With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Coup de cœur littéraire.
J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas.
Rencontre.
Déjà, le titre est une absurdité, c'est une erreur totale.
Auteur, éditeur.
C'est quoi la parole sur un texte? C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas?
Grain de Fleur Café, un podcast de Grande Contrôle avec la librairie Caribde.
Bonjour, merci de nous rejoindre sur le Grand Fort Café où on est très heureux de vous accueillir au nom de la librairie Caribde. On va vous parler aujourd'hui de trois titres que l'on aime beaucoup. Et comme la littérature ne démarre évidemment pas en 2019 et que vous savez peut-être, si vous nous suivez déjà depuis quelques temps, que la nouveauté est une notion bien relative pour nous et qu'on aime aussi bien les choses toutes fraîches qui viennent de sortir du four que les choses parfois plus anciennes, on va attaquer avec le roman de 1995 d'Éric Fey, c'était son premier, Le Général Solitude, qui est sorti aux éditions du Serpent à Plumes, un éditeur qui a connu un destin chahuté, mais qui a apporté un bon nombre de choses très précieuses à la littérature ces 30 dernières années. Donc, Le Général Solitude, on est loin, on est en pleine guerre d'indépendance du Venezuela et de la Colombie, en 1818-1820, et la colonne espagnole du Général Soledad, donc qui donne son titre au roman, doit conduire une manœuvre relativement complexe avec une autre unité espagnole, et donc cette colonne s'enfonce dans la jungle pour y disparaître. Quel fut dans ce destin le rôle de la rivalité amoureuse que nous raconte par Brice justement, le général Soledad lui-même et le général Martinez, qui conduisait l'autre unité espagnole en ces semaines étranges et potentiellement funestes. Donc, Éric Fey, avec ce premier roman, il fait quelque chose d'assez extraordinaire. La nature est omniprésente, la jungle, la luxuriance, la touffeur. C'est un roman qui est moite, mystérieux. Les spéculations les plus insensées sont possibles. On frise ce que d'autres auteurs appelleraient l'indicible. Il y a une ambiance qui est en même temps crépusculaire. On peut songer, donc, avec ce mélange de précision historique et d'ambiance légèrement fantastique, où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On peut songer à certains titres de Julien Gracq, à Yves et à Daremy, bien sûr, et aux Soldats de la mer. Donc c'est un roman qui est très bref, très court, très captivant, qui vous prend quand vous vous retrouvez dans cette jungle, sur ces pentes volcaniques, aux côtés de ces soldats perdus espagnols qui sont à des milliers de kilomètres de chez eux et qui se demandent un peu ce qu'ils font là et qui en même temps sont engagés dans quelque chose, mais je vais certainement pas vous dire quoi. Et la phrase de Kobo Abe, l'auteur inoubliable de La Femme des Sables, qui est placée en exergue par Éric Fey, un jour, quelque part, chacun doit rejoindre son front. L'essentiel, c'est d'en avoir le pressentiment. Il faut avoir le courage d'attendre patiemment qu'on vous appelle à combattre. Voilà, ça c'est Le Général Solitude, donc 1995, au Serpent à Plumes, Éric Fey, et aujourd'hui disponible en point seuil. Un deuxième titre, et cette fois on est dans l'actualité brûlante, puisque c'est sorti en septembre 2019 de cette année, chez Acte Noir, la collection de policiers et de romans noirs d'Acte Sud. Et c'est d'Alexandre Civico, et ça s'appelle Atmore, Alabama. Alors, Atmore, Alabama, ça nous plonge dans le sud profond, celui de Carson McCullers, de William Faulkner. Aujourd'hui, en 2019, c'est des rednecks, des souvenirs historiques vus avec le prisme ad hoc semblent à la fois dérisoires et sont complètement sanctifiés. La fondation du village, enfin de la ville, le premier train à avoir traversé la ville et qui donne lieu à des fêtes, à des choses. Donc on est plongé dans cette ambiance et à côté de ça, il y a les prisons d'État, les couloirs de la mort. On est en Alabama. Le narrateur, le protagoniste principal, qui est un Français qui vient juste d'arriver de Paris, il a débarqué en fait de l'avion en Floride et puis il a pris une voiture, il est arrivé à Atmore. Au départ, on ne sait pas trop pourquoi, on vous explique assez rapidement pourquoi il est là. Sa fille a été adolescente, a été atrocement violée et tuée un certain temps plus tôt et il ne s'en est jamais remis. Son couple ne s'en est pas remis, lui non plus. Il est là et en revanche, c'est par espèce de cercle concentrique qu'Alexandre Civico nous amène dans cette quête, dans cette trajectoire assez insensée. On comprend pourquoi le narrateur est brisé, pourquoi il est fourbu. On comprend mal au début quelle est sa quête, qu'il envoie rôder sous les murs de la Holman Correctional Facility qui se trouve à Atmore, Alabama et qui est le lieu en Alabama où ont lieu les exécutions capitales. Alors, c'est un roman très court, il y a une petite galerie de personnages, de gens esquintés par la vie qui se retrouvent autour de ce narrateur que les gens très rapidement appellent le piéton parce qu'il est le seul à se déplacer à pied dans cette ville où évidemment même pour faire 200 mètres on prend sa voiture. On retrouve la façon qu'a Alexandre Civico de concentrer sur une personne toute une vie, voire plusieurs vies. C'est ce qu'il avait fait avec son premier roman en 2015, La Terre sous les ongles, qui dans l'espace d'une espèce de traversée de la France et de l'Espagne au volant d'une voiture à fond toute la nuit sur l'autoroute entre Paris et Cadix, reconstruisait en fait plusieurs vies. C'est ce qu'il avait fait d'une façon totalement différente avec La Peau et Corse en 2017, avec des soldats, mais des mercenaires ou peut-être des djihadistes, on ne sait pas, enfin d'une guerre civile qui ne dit pas son nom et qui rôdent, qui sont en train de disparaître. Bon. Et là, avec Atmore Alabama, donc c'est noir, c'est très noir, c'est somptueux, c'est extrêmement somptueux. Il y a vraiment cette trajectoire parabolique d'une colère qui est froide, que l'on devine être une colère un peu terminale. Et puis pourtant, dans la profonde brutalité des choses, il y a une extrême tendresse des êtres. Et ça, c'est vraiment le talent d'Alexandre Civico pour nous faire toucher du doigt ces espèces d'abîmes en fait, qui s'ouvrent sous nos pas. Donc Alexandre Civico, Atmore Alabama, paru en 2019 chez Acte Noir, donc la collection policière, et Noir d'Acte Sud. Alors un troisième titre qui est également un titre d'actualité puisqu'il est également paru en septembre 2019 ou peut-être fin août 2019 dans ce qu'on appelle la rentrée littéraire, ce phénomène français qui suivant les jours et l'état d'humeur peut faire sourire ou hurler, c'est De Pierre Eidos de Bérangère Cournu aux éditions Le Tripode. De Pierre Eidos, c'est le froid, c'est la glace, c'est aussi l'été, c'est la communion ambiguë avec une nature qui est désormais particulièrement mouvante, et on va suivre une très jeune Inuite qui est brutalement séparée du reste de sa famille par une débâcle inattendue de la banquise. Donc imaginez, si vous avez vu ce film, la scène initiale de The Day After Tomorrow, quand tout à coup la banquise s'ouvre, et ben hop, ça y est, ça se détache, et elle est là, toute seule. Heureusement, donc c'est une survivante, elle était très proche de son père, bien qu'étant la fille aînée de la famille, mais elle s'est chassée, elle a un petit côté garçon manqué, même chez les Inuits, et donc elle va non seulement survivre, mais prospérer, passer à travers diverses épreuves, que je ne vous dévoilerai évidemment pas, parce qu'il y en a de toute nature de ces épreuves sur la banquise, et au fil des saisons, puisque en fait, bien que le roman soit très court, il s'étend sur plusieurs années, elle deviendra donc une femme expérimentée au sein des Inuits. Alors, on retrouve dans cette plongée en fait sur la banquise par Bérangère Cournu un peu la méthode et le ton qu'elle avait adopté il y a 2 ans quand elle avait écrit le très beau Née contente à Oraibi qui nous parlait de la culture Hopi, donc des Indiens, des Amérindiens d'Arizona. Pour passer sur les Inuits, Bérangère Cournu, elle a fait un travail extraordinaire de documentation. Elle s'est plongée, mais pendant des semaines et des mois entiers, dans les archives Jean Mallory, les archives Paul-Émile Victor, qui sont conservées au Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, elle a adopté une approche véritablement anthropologique, que bien entendu, ensuite, elle a complètement gommée de façon à ce que ça devienne, cette fois, une véritable appropriation culturelle, mais dans le bon sens du terme, pas dans celui qui parfois agace ces dernières années. Et on est loin à la fois, même si on retrouve des petits bouts de scène qui pourrait songer à Nanook l'Esquimau, donc ce documentaire de 1922, quasiment le premier documentaire de Robert Flaherty, qui fonde le documentaire moderne, et qui est un vrai faux documentaire, puisqu'on a appris beaucoup plus tard que Robert Flaherty avait quand même fait jouer Nanook l'Esquimau un peu comme un acteur, donc c'était pas un véritable documentaire. Mais malgré ce biais méthodologique, il en sortait une force énorme et qui a révélé en fait les Inuits au monde et qui a déclenché des tas de vocations, d'études, etc. Et d'un autre côté, on peut penser aux magnifiques Rêves arctiques de Barry Lopez, donc écrit en 1986. Barry Lopez qui est un grand arpenteur du nord-est canadien, de l'Alaska et du Groenland, et qui, en choisissant dans Rêves arctiques de regarder presque au microscope 4 espèces, non pas menacées, mais en tout cas dont le mode de vie change fondamentalement depuis qu'il y a à la fois réchauffement climatique et puis bien avant qu'on parle de réchauffement climatique, tout ce qui est la main de l'homme en fait dans les terres arctiques, donc les plateformes pétrolières, les pipelines trans-Alaska, ce genre de choses. Donc il étudie comment ça influence, comment ça change finalement l'espèce. Et on retrouve chez Bérangère Cournu cette capacité assez phénoménale donc à digérer une masse de documentation extrêmement authentique, extrêmement fouillée, extrêmement précise, et puis à en faire une histoire de vie, une histoire humaine, une histoire où il y a beaucoup de respect et beaucoup d'imagination. Donc il y a la nature, il y a les autres, il y a l'obsession qui est complètement acceptée de la faim et de l'énergie musculaire à préserver, qui est tout le temps un enjeu, qui est tellement un enjeu qu'à la fin on n'en parle plus, mais il est tout le temps là. La mort rôde en permanence, bien entendu, et les autres sont à la fois une bénédiction et une menace, parce qu'on est dans un contexte de rareté extrême du contact. On atteint des degrés de personnages taciturnes, en fait, qui en trois mots échangent plus que d'autres en des heures, en fait, de palabres. Et un univers qui a une apparence resserrée, hein, très compact, très familial, ou petit groupe de famille, et qui, en fait, on s'en rend compte au fil des pages, est toujours plus vaste qu'il n'y paraît d'abord. Ce n'est pas une ode, c'est quelque chose de différent. C'est vraiment de pénétrer dans l'intimité d'une culture qui disparaît, mais qui trouve des voies pour se préserver, pour exister. Et c'est intemporel. Ça aurait pu se passer il y a 40 ans comme aujourd'hui. Et on est vraiment là dans l'intimité de cette chasseuse, pêcheuse inuite, brutalement séparée de sa famille par un effet naturel, certes, mais du naturel accéléré par l'homme. Voilà, c'était donc nos trois titres pour aujourd'hui. Donc, Le Général Solitude d'Eric Faye, un roman de 1995. Atmore, Alabama d'Alexandre Civico et De Pierre et d'Os de Bérangère Cournu, deux romans de la rentrée 2019. On vous retrouve la semaine prochaine avec trois autres titres, probablement avec un titre un peu plus ancien et deux tout à fait récents. Et on espère que ça vous plaira autant que nous, ça nous plaît.
C'était Grain de Fleur Café, un épisode produit par Grain de Contrôle avec la librairie Caribde.
C'était très bien!
À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.